les oiseaux, nos alouettes. On est retombé en amour avec notre équipe de la Ligue canadienne de football. Renaud Bourbonnais, salut.
Salut Renaud.
Salut Ben, salut FX.
J'imagine que tu vas bien après cette autre victoire éclatante, faut dire. Petit relâchement défensif en deuxième demi, là, après la perte de Davis Alexander. Mais sinon, c'est encore une sortie quasi parfaite.
Ouais, puis écoute, pour le relâchement au quatrième quart, là, moi, je pense qu'à la limite, c'est une bonne nouvelle. Ça donne des trucs aux entraîneurs à pouvoir, des commentaires aux entraîneurs à pouvoir passer à leurs joueurs. Ouais. Comme quoi, il ne faut pas lever la pédale et tout. Sinon, ben, on sort de là hein, avec un 38-6. Il n'y a comme aucun commentaire à faire pendant la semaine. Donc, à la limite, ce sera ça. Puis, à l'écart qu'on avait à ce moment-là dans le match, je pense que c'est pas si grave que ça. C'est sûr que les joueurs, eux, en tant que tels, doivent pas être contents d'avoir accordé des, surtout que c'était des longs touchés, là.
C'est ça.
En fin de match. Mais règle générale, écoute, pour moi, c'est pratiquement un sans-faille là, pour les Alouettes. Vraiment, ils avaient une mission à accomplir à Edmonton. Ils affrontaient une équipe inférieure à eux, puis ils les ont battus à plate couture.
Quelque chose que j'ai trouvé un peu triste, on n'a pas parlé, FX, mais là, ça me revient. Tabarouette, tu m'en, il n'y a pas de monde.
Ah non, c'est vide.
À Edmonton. Hey, sérieux?
Non, tu fais bien de le mentionner.
Sérieusement?
Tu fais bien de le mentionner, Ben.
Parce qu'à Edmonton, avant, là, il y avait du monde là. C'était un endroit où on encourageait jadis les Eskimos.
Ben oui.
Mais là, hier, là, à un moment donné, j'ai dit, coudonc, c'est-tu moi qui hallucine, là?
Non.
C'est-tu vraiment clairsemé à ce point?
City of Champions, autrefois, hein? Edmonton, la ville où on a remporté 5 Coupes Grey consécutives dans les années 70 et tout. Mais cette époque-là est révolue, puis ça aide pas le fait que les Elks, depuis, j'ai envie de te dire, depuis la pandémie, il y a rien, mais absolument rien qui va. Pas juste on rate les éliminatoires, on a des équipes minables. Au point où la dernière fois où cette équipe-là a eu du succès, c'était Jason Moss qui était leur entraîneur-chef. Puis Jason Moss, il a travaillé en Saskatchewan entre Edmonton et Montréal. Et il a eu le temps de gagner une Coupe Grey à Montréal. Donc vraiment, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de succès. Et il faut le dire, quand on a décidé de barrer le nom Eskimo puis de changer ça pour les Elks, il y a eu une insatisfaction du côté d'Edmonton. Et là, le nouvel actionnariat, d'ailleurs, tu l'as remarqué peut-être, mais a fait changer le logo. On n'utilise plus là, le fameux Elk en logo. On est revenu au double E parce qu'il y a un attachement face à ce logo-là et surtout aux Eskimos là, du côté d'Edmonton. Une organisation qui est vieille, là. C'est pas comme si ça avait 20 ans, là, les Elks d'Edmonton.
Absolument, c'est une organisation qui a beaucoup d'histoire, une des plus vieilles du circuit.
Ouais.
Et puis là, hier, je dis, tabarouette, c'est vraiment pathétique. Il n'y a pas un sacramouille de chat dans les estrades. Hey, sérieux? Tu peux pas rentabiliser ta franchise avec aussi peu de monde. La dernière fois que j'ai vu aussi peu de monde dans un stade, c'était à la fin de l'agonie des Expos.
Ouais. C'est ça, exact. À la fin des Expos. Écoute, de ce que j'ai entendu à la radio, apparemment que du côté où les caméras étaient, c'était moins pire. Il y avait plus de gens. Il faut dire aussi que le Commonwealth Stadium, il y a quoi, plus de 60 000 sièges là-dedans. Donc, c'est à peu près impossible de le remplir pour un match de saison régulière. Mais reste quand même que je vais y aller dans la même veine que toi. Là, c'est pas une excuse. C'était vraiment, vraiment pitoyable ce qu'on a vu hier. Surtout que, on est en début de saison. Là, c'est pas comme si les Elks étaient.
On est à Edmonton. Renaud, on est à Edmonton. Ouais. Là, on vient d'avoir la finale de la Coupe avec les Oilers. Il y a quand même une effervescence en ville.
Ouais.
Non, pas pantoute. Pas pour les Elks, en tout cas. Revenons à nos moineaux parce qu'eux, ils en valent la peine. On est inquiets un petit peu. Je te dirais, sur la messagerie texte et sur YouTube, FX et moi également, on s'est posé la question ce matin d'entrée de jeu à la station quand on s'est croisés. Davis Alexander, on le trouve bon puis on l'aime en temps, mais est-il un tantinet fragile?
Ben, je pense qu'on a raison de se poser la question parce que là, ça fait quelques accros, hein, rappelle-toi, au premier match de la saison,
exact.
Les Argonauts s'étaient fait frapper dans la jambe et tout. Puis, on va se dire, autant que moi aussi je l'aime, il y a un style de jeu, ce qu'on appelle reckless, là, des fois un peu tête en l'air, fonceur, a pas peur de prendre le contact sur certaines de ses courses. Puis ça, peut-être qu'à la longue, ça va le rattraper. Ceci étant dit, je suis pas encore prêt à lui mettre une étiquette de fragile, surtout que jusqu'à preuve du contraire, quand il se blesse, jusqu'à maintenant, il revient.
Ouais.
Puis hier, quand il est sorti, l'équipe menait déjà par 20 points. Je pense qu'on est vraiment allé par prévention. En fait, après le match, quand Davis Alexander et Jason Moss ont parlé, les deux ont dit que c'était vraiment de manière préventive qu'on allait sortir. Moi, j'ai hâte de voir à l'entraînement s'il va être limité cette semaine. Mais je ne serais pas surpris là, si la semaine prochaine, on le voyait à Hamilton. Puis pour l'organisation, là, présentement, c'est encore une possibilité. Donc moi, je ne suis pas encore prêt à lui mettre là, cette étiquette-là parce que des vrais de vrais fragiles, qui ratent une dizaine de matchs par année, là, on en a déjà vu, on n'est pas rendu là.
T'as raison.
Si on a vu les Elks avec Trey Ford hier, est-ce qu'on aurait pu ou on aurait dû envoyer Cody Fajardo dans la mêlée, Renaud? C'est deux défaites de suite maintenant pour les Elks Edmonton, deux défaites pour ouvrir la saison. Est-ce que tu t'attends à ce que Fajardo soit bientôt utilisé par l'équipe?
Éventuellement, je pense qu'il va l'être. Écoute, je ramène ça un peu à Montréal, OK? À la fin de la saison dernière, il y avait vraiment deux clans. Je te parle pas au sein de l'équipe, mais je te parle les partisans en général, les observateurs, le clan Fajardo, le clan Davis-Alexander. On a décidé d'y aller du côté de Davis-Alexander. Personnellement, je pense que c'était la bonne décision, puis je pense qu'il est en train de prouver que c'était la bonne décision. Mais il y a quand même des gens qui voyaient en Cody Fajardo encore l'homme de la situation. Et là, tu l'envoies à Edmonton, une équipe minable qui, visiblement, a pas de carrière, parce que Trey Ford, on l'a vu encore une fois hier, c'est difficile quand ça vient le temps de passer le ballon. Je comprends pas que ce gars-là, Cody Fajardo, est pas sur le terrain. Et lui-même doit être le premier à se le demander. Et surtout, moi, je me demande, son groupe de receveurs, ils en pensent quoi présentement? Parce que oui, Trey Ford, on regarde, il est allé chercher 308 verges par la passe hier. Mais combien de ces passes-là étaient des longs jeux au quatrième quart alors que le match était déjà terminé? Et au contraire, quand on regarde pendant le match, combien de fois est-ce qu'il y a des ballons qu'on se disait, mon Dieu, c'est bien long que le ballon se rende au receveur là-dessus? Ou combien de fois est-ce qu'il a touché des receveurs qui ont dû complètement s'immobiliser pour attraper le ballon? Si bien que, oui, il va chercher 308 verges, mais il n'y a aucun de ses receveurs, de toute la partie, aucun de ses receveurs qui est allé chercher au moins 20 verges après la réception. Donc, c'est difficile pour lui de toucher ses receveurs alors qu'ils sont en mouvement, alors qu'ils sont dans une position pour aller chercher des plus gros morceaux de terrain. Donc, moi, je pense que si j'étais à Edmonton, c'est immédiat. Ou enfin, même pendant le match hier, j'aurais procédé à un changement.
Ouais. Pauvre Cody, hein? Qui doit regarder ça aller, qui doit se dire « Tableau, j'étais-tu bien à Montréal? Regarde-moi ça, la belle équipe, là, au bord. Moi, je suis sur le banc, là, regarde ça aller, pas de monde dans les estrades, Edmonton, aïe aïe. » On l'a bien aimé, il n'a pas été longtemps ici, mais il était sympathique. On l'a eu en entrevue à quelques reprises avec le chum Martin Lemay. Et puis, ça nous donnait des bons moments en radio. La défensive, évidemment, fidèle à elle-même. La défensive des Alouettes, je pense que c'est par là que ça passe, mais en même temps, t'es tellement posé, balancé cette année. Je vois pas de faille dans cette équipe-là. Sincèrement, Renaud, j'essaie de trouver un bobo quelque part. On a parlé de la fragilité, peut-être, puis comme tu le disais, t'as bien dit, là, il aurait pu revenir, mais bon. Mais à part ça, je vois pas de faiblesse dans cette équipe-là. Ça commence avec Danny Machocha, c'est l'équipe d'entraîneurs, c'est la défensive, l'attaque, les unités spéciales. ça va bien? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Non, je suis 100% d'accord. Puis écoute, hier, 7 jeux négatifs pour la défense des Alouettes, dont 5 sacs du corps, réalisés par 5 joueurs différents en passant, dont 3 Canadiens. On sait à quel point l'apport des joueurs canadiens est important dans les années difficiles des Alouettes, dans les années 2010. Qu'est-ce qu'on avait comme faiblesse? Aucune profondeur à la position de joueur canadien, ou même, je te dirais, une faille de talent là, pour les joueurs canadiens. Et là, ben, ça a complètement été changé. L'an dernier, la seule difficulté que cette excellente défense-là avait, c'était d'appliquer de la pression sur les corps. Hier, on a passé la partie au grand complet dans le champ arrière, puis même si Trey Ford est capable de glisser entre les mains une fois de temps en temps, on a réussi à l'amener au sol à 5 reprises. Donc, rien à dire là-dessus. Il y a des grosses acquisitions qui ont été faites. Isaac Adeyemi-Berglund, bon, c'était pas cette année, c'était l'an dernier, mais depuis la deuxième moitié de saison l'an dernier, il est monstrueux. Sean Oakman, qui fait des jeux à tous les matchs sans exception depuis qu'il s'est joint aux Alouettes, les 3 premiers matchs de la saison, il a eu un impact dans ces matchs-là. Puis je peux pas passer sous le silence le fait que Jeff Quentin-Harcourt, lui aussi, est allé récolter un sac depuis le jour 1. Il est dans la formation des Alouettes, c'est-à-dire l'an dernier. À tous les matchs, il trouve le moyen qu'on le repère sur le terrain, qu'on le remarque sur le terrain. Donc, écoute, il y a eu du gros, gros, gros travail de recrutement de Danny Machocha depuis qu'il est en poste.
Comme dirait un certain personnage, quand ça va bien, ça va bien.
Ça va bien.
Écoute, on se laisse avec le prochain match. En principe, si la tendance se maintient, on devrait sortir de cette rencontre-là 4-0 contre les Ticats à Hamilton vendredi prochain.
Exact. Tiger Cats de Hamilton la semaine prochaine. Je veux dire, comme toi, si Davis Alexander est en santé, s'il n'y a pas de pépins, ça devrait être, en théorie, là, une victoire pour les Alouettes. Le gros défi vient la semaine suivante. Les Lions de la Colombie-Britannique vont être au stade Percival Molson. Donc, peut-être qu'à partir de là, on va voir un peu plus de compétition.
Toujours intéressant de jaser avec toi, Renaud. Merci beaucoup.
Salut les boys. Merci.
Salut, Renaud.
Salut. Renaud Bourbonnais.